La voz sin fronteras.
La voz sin frontières.
Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers.
صوت بلا حدود.
La voix sans frontières.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices. Aujourd'hui, et comme chaque quatrième mardi du mois, bien sûr, avec l'émission La Voix sans frontières et ses questions. Aujourd'hui, c'est l'actualité de ce matin. On va vraiment y aller vers ce qu'on a vu ce matin-là, le rassemblement qui a été eu devant le palais de justice concernant, bien sûr, l'affaire de procès contre la solidarité, on peut dire, et de criminaliser les soutiens qui aubergent les migrants et aussi des procès contre les migrants. Voilà, on va vraiment on va savoir ça avec des invités qu'on a. On a bien sûr Myriam qui est avec nous. Bonjour, bonsoir Myriam.
Bonsoir.
On a Shams. Bonsoir Shams. Alors, Shams, c'est un des amis des migrants qui sont aujourd'hui dans la prison, qui étaient passés, bien sûr, dans le procès de ce matin. Et bien sûr, dans la régie, on a Véronica et Arthur. Bonsoir à vous deux. On va commencer avec notre amie Myriam. Sur aujourd'hui, bien sûr, et sur toute l'histoire, cette histoire, comment vous avez vécu vraiment l'histoire dès le début, Myriam?
Dès le début, et c'est pas fini, j'ai bien l'impression. Bah écoutez, ça a commencé en 2017, le 20 octobre 2017, à 5h du matin, pile, ouais. Quand les flics ont sonné chez moi. Et branle-bas de combat, je pensais, encore même assez tranquille, je pensais que c'était un contrôle d'identité. Parce que Hassan, l'Égyptien que j'hébergeais depuis un an, venait de se faire contrôler dans le quartier où il était bien connu. Mais malheureusement, ce jour-là, il était accompagné d'un Soudanais en pantalon de tri avec un capuchon. Donc les flics, tout de suite, ont fait demi-tour et ont contrôlé. Donc j'étais assez tranquille. Je n'avais pas capté du tout que 10 flics à 5 heures du matin pour un contrôle d'identité, c'est un peu abusé. Et c'est dans l'escalier, je demande quand même... par politesse, qu'est-ce que vous faites là? Et puis, trafic d'êtres humains. Alors là, j'ai compris que ça allait être compliqué, mais j'ai jamais imaginé que, quoi, 3 ans et demi après, on en serait encore à se faire engueuler, mais vraiment comme cet après-midi, par l'avocat général en appel du procès de la solidarité, mais vraiment engueuler comme du pu parce qu'on aide les migrants. Enfin non, on n'aide pas les migrants par contre. On met leur vie en danger parce que tout le monde sait qu'ils vivent comme des coqs en pâte ici dans toutes les métropoles d'Europe. Mais nous, on est des gens dangereux qui les mettons en danger. Je continue peut-être l'histoire, oui, donc suite à la perquisition de ce jour-là, mais Hassan, que j'hébergeais, a été arrêté, ainsi que 7 autres migrants. Oui. Et 2 hébergeurs, mais qui n'avaient pas ma chance, c'est-à-dire que moi je suis belgo-belge, comme disent les flics, tandis qu'eux sont d'origine, l'un tunisien, l'autre marocain. Donc comme il y a un risque de fuite, paraît-il, et pas quand on est belge, pourtant j'ai un passeport, hein, on doit aller en prison pour pas fuir dans le pays qu'on a quitté depuis des années, soit. Eux sont restés incarcérés, Zakia, 2 mois, alors qu'elle avait un enfant qu'elle allaitait encore. Walid, plus de 8 mois. Ouais. Et puis les autres, entre 16 et 18 mois, dont 6 mois de bracelet électronique. On s'est retrouvés... inculpé de trafic d'êtres humains et d'appartenance à une organisation criminelle par la justice d'Endermonde en Flandre. Ouais. Je ne savais même pas situer d'Endermonde sur une carte, en fait. J'ai vite appris parce que je suis allée tous les jours visiter Hassan en prison. Quelle expérience. Vraiment des leçons de vie. J'avais déjà appris tout ce que je dois savoir dans ma vie. Je l'ai appris dans la jungle de Calais, en fait. Ouais. Pas à l'école ici, ni à lire et compter, mais pour le reste, tout ce qui compte, c'est auprès des migrants que je l'ai appris. C'est une autre perspective. Par exemple, je ne savais pas que j'avais toujours été heureuse, en fait. On ne me l'avait jamais dit, mais oui, j'ai toujours été heureuse, parce que j'ai tout pour être heureuse. C'est des choses comme ça qui remettent en perspective. Ça relativise beaucoup de choses, enfin, ça relativise toute notre vie. On se rend compte qu'on a beaucoup trop et qu'on est incapable de partager. Alors que tout ce qu'on a nous étouffe en fait, nous rend pas heureux. On a besoin des bouquins de développement personnel pour savoir où est le bonheur. Nous on sait quand on a vécu parmi les migrants, on sait que le bonheur il est simplement dans l'échange et le partage, de la solidarité. Il n'y a rien de mieux je crois. Mais bref, la justice ne voit pas les choses comme ça. Donc on s'est retrouvés à Dendermonde. Au tribunal, et là, c'était vraiment chaud parce qu'on risquait entre 5 ans et 10 ans de prison. Mais on a des avocats extrêmement pugnaces qui nous ont tirés de là. On a obtenu le transfert du dossier à Bruxelles puisque les seules personnes qui ne parlaient pas l'arabe parlaient le français et non le néerlandais. Donc ça a été une bataille quand même d'un mois. Et puis, on est arrivé à Bruxelles. Là, on pensait que ça allait aller un peu mieux. Et effectivement, on a été mieux accueillis au tribunal à Bruxelles qu'à Dendermonde. Ouais. On a été jugés, en tout cas les hébergeurs, équitablement. Les migrants, comme je le disais ce matin, j'ai dit quelques mots là, lors de la mobilisation avant le procès.
On va retourner sur ce point-là de ce matin.
Voilà, migrant est de toute façon coupable. Il est coupable de mettre un pied ici parce que, voilà. Donc eux, évidemment, ont été condamnés. Et puis voilà, on pensait que ça a été difficile, surtout les mois de bracelet électronique, vraiment l'enfer. Quand Hassan était assigné H24 à résidence à la maison, et moi j'étais plus la visiteuse, j'étais la gardienne de prison du coup, c'est pas du tout le même rôle. Et c'est vraiment difficile, là j'ai pu constater ce que c'est que avoir la liberté, pouvoir la toucher du bout des doigts, mais ne pas être libre, parce qu'il ne pouvait pas franchir cette porte qui pourtant était ouverte. Il me disait, c'est plus facile d'être en prison parce que la porte est fermée. Je n'ai pas à me poser de questions. Là, j'ai qu'à franchir la porte. Mais alors, évidemment, c'est encore plus de problèmes, quoi. Et puis finalement, le procureur général a fait appel parce qu'il voulait des condamnations, je pense, d'hébergeur. Puisque le but de ce procès politique est de fragiliser la solidarité et de casser tous les liens qu'on peut tisser entre nous, il faut faire peur. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Les hébergeurs sont des gens qui n'ont pas vite peur. Sinon, ils n'hébergeraient pas. Ils resteraient bien tranquilles chez eux. Donc, c'est une question de confiance. Comme je dis toujours, une question de confiance mutuelle. Soit on fait confiance aux gens à qui on ouvre la porte. Mais putain, ils nous font confiance aussi pour venir comme ça chez nous. Ils ne savent pas chez qui ils vont. Ils ne savent pas pourquoi faire. Ils ne savent pas comment ils vont être reçus. Et moi, je trouve ça vachement beau. Et voilà, on ne lâchera pas, quoi. Et, en fait, c'est pas grave. Moi, je suis devenue ce que j'ai toujours voulu être grâce à toute cette affaire, parce que j'en ai tellement bavé que ça m'a forgée, en fait. Je suis sortie de mes rails, de ma zone de confort, enfin, ça déjà depuis la jungle, mais en tout cas, je suis sortie de mes rails et je sais que c'est ça qui me tient en vie. C'est pas le monde, c'est pas les gens que je vois passer là devant moi avec des masques qui vont me tenir en vie, évidemment. C'est pas le futur confinement qui va me tenir en vie. Mais c'est toute la vitalité, l'énergie, la résilience, l'enthousiasme. Cette soif de vivre et de préférer réussir sa vie. Non, comment dire? De préférer mourir que de mal vivre sa vie. Moi, je trouve ça vraiment génial, quoi. Et c'est ce que je veux aussi. Je préfère mourir que continuer à mal vivre ma vie.
Shams, bonsoir, bien sûr. Shams, tu es un des amis de Haïdar, c'est ça, et Mohamed.
Ouais, en fait, j'ai 4 amis qui sont dans la prison. Ouais. Et moi, j'aime bien qu'ils parlent en anglais parce que c'est la langue que je sais bien.
Ouais.
Parce que je suis en Belgique depuis 10 ans. So, what I want to talk about it, it's about the 4 friends that I was sleeping with them in Park Maximilian in 2018. And actually, I was in Belgium because I want to try to go to UK, and the 4 of them they were with me, and we were trying to go to UK, but I don't know, because of the political, because of the politics in Belgium, they were in the present, and today I was talking, I was in the present, I was in the court, and I was seeing them, how they were talking, but actually the people that I saw them today, they are talking, they are not the same person that I was living with them in 2018, because actually they are living in a lot of psychological problems, and one of them, it's Haidar, he was talking with me when I was visiting them in the present. He was talking about the political problem and other things like that, but actually this is not his problem. His problem that he was here because of trafficking human. But actually he was trying with me when I was sleeping in Park Maximilia, but he is really, really, he's this is not his case that he was, because we were sleeping together there. So, and when he was speaking today in the court, he was speaking about the other things, but actually he was in the traffic problems. But that means he's in the really psychological problem. The things that I want from the government or from the charge that he's seeing a lot of about him is that look about his psychological problem, because we are in Belgium, it's not because we are looking in the good position of economic or something like that. Actually, we are suffering in Sudan because of a lot of political problems. Then when he would come to the Belgium, because he was trying to go to UK. But when he find himself in this case, this is mean there are a lot of things the government didn't look care about that. So that's why that was surprising about.
Bon, plus ou moins, ce que j'ai compris, que vraiment la politique migratoire aujourd'hui qui essaye vraiment de mettre les migrants dans ces situations-là,
yes,
et
yes,
c'est clair.
Because what I'm afraid of, you will be in the reason that why the UK is out of you of United of Europe, because there is a lot of questions they ask the governor in England. For examples, when they make deal in Calais with the government of French, they will ask, why you let the people they come in UK? That is mean the government in French, they didn't care about the borders. So that is mean there is no a lot of security. So the government of in French or in Belgium, they explain that, yes, we have people that they make crime like trafficking human. So they catch the people that they are sleeping in the street and they say, yes, we have evidence about these people. But actually not. There is no one here in Brussels or in anywhere in France. They ask someone to pay him to let him go to UK. Actually, we are trying to go UK in groups. We always trying to go. So when we are in the park, for example, there is someone who's trying to close all the people. So when they close, so if there's someone who's got to UK, so there is will be still some groups. So the other one is trying to do that. Maybe they will be in the same case, because when I'm trying, sometimes I try to close the people. So that's what we do, because we don't ask someone to let us go to UK, because we don't have a passport or we don't have any travel document. So that's what the problem. But they are free from all that they talk about them.
Oui, c'est vraiment c'est ça le problème, que aujourd'hui cette politique migratoire en Europe en général,
yes,
qui est vraiment
why we
qui
always the immigration we are be in the foreign of everything. If the president they want to be, for example, in Belgium, they want someone to be the president, he say yes, the immigration there, they are making the bullshit, they are not doing the rule. Actually, I'm living in Belgium since 2 years ago, but I'm doing the rule. Right now, I learn French, and I have the level that I can make training work, and I work in the association, and I am helping people. But there is no one of you, they are looking what I'm doing. What the people, they are looking, they're looking just in the TV, what the police, they are saying. But actually, the police is dangerous always for you, too. Because when the police, they say, we think this person, he smoked this crime, after you will be in the jail. So it's not the problem just for the immigration. It's the problem also for the people that they have the nationality in Belgium. People, wake up. You have to find the evidence. Today I was in the interview when they are talking, the people they are talking, the police they are talking, they said, yes, we have the evidence. We have the evidence of SMS that the people they are talking. But the lawyer, they say, where the evidence? We didn't find any evidence. Actually, I'm shocked in this. In my country, yes, you can say that in Sudan because the government, there is no democratics. But in Europe, if there is no democratics, really, people, wake up.
Alors, ce que j'ai compris, peut-être que je comprends quelque chose, mais pour, ouais, pour vraiment, on est bien d'accord que criminaliser les aujourd'hui, on voit la criminalisation des migrants et la criminalisation des soutiens et des citoyens qui veulent vraiment aider ces migrants-là, c'est ça devenu une mode pour cacher les vrais débats de les vrais passeurs, on n'en parle pas, les vrais trafiqueurs, on n'en parle pas, et on n'en parle pas des trafiqueurs humains qui le font vraiment eux-mêmes, on parle pas des les vrais trafiqueurs du coke et de shit et de les trafiqueurs de vrais, on n'en parle pas. Alors on voulait vraiment tourner l'image chez les migrants, voulait tourner l'image chez les aubergeurs. La question que je vous posais à vous deux, je commence par toi et après, bien sûr, à Myriam, c'est comment vous sentez aujourd'hui? Vous étiez au tribunal. Comment vous avez, surtout, Shams, c'est quoi les sentiments que tu as eus? Et tu vois vraiment.
I'm always with my friends, Muhammad or Ahmad.
Ouais.
I'm always in the Fukana with him because I know him well. If you see him, you don't see this is Muhammad. He is differently. It's changed. Even his face, you don't think that it's Muhammad. It's someone else because always he think I was in Sudan. He think about that. Today I was talking with him. We finished today at the cour at 12 or maybe at 1, but I was with him for 4 hours. But he's afraid from everything. He's afraid that he will be in the jail because of the reason that he did not do it.
La même question, Myriam.
Choqué aussi, j'allais dire la même chose, et je voulais rebondir justement ouais. sur ce que disait Shams juste avant. C'est que cet après-midi, ce qu'on a entendu, c'est une négation totale de cette ignoble politique migratoire. Ils veulent pas en entendre parler, c'est pas leur problème. C'est pas le problème d'en parler ici, mais c'est le problème d'en parler où? Alors personne n'a le courage politique de faire quoi que ce soit, et c'est nous qui sommes, eux les migrants ou nous, qui sommes solidaires, qui sommes criminalisés. Mais cette hypocrisie, ça peut pas fonctionner. On va toujours continuer à criminaliser ceux qui font juste ce qu'il faut pour rester en vie ou pour aider d'autres à rester en vie. Mais l'avocat général nous a parlé cet après-midi. Il nous a dit, c'est vous qui mettez leur vie en danger parce que nous, parce qu'on accueille des gens qui sont des passeurs. Mais tout le monde, enfin, je ne vais pas dire tout le monde est passeur, mais il faut survivre quand on est dans la rue, quand on est dans une jungle, quand on est... Est-ce qu'un migrant ne mange pas, ne boit pas, ne s'habille pas? Mais si, comment ils font? Ils n'ont droit à rien. Donc, moi, j'étais hyper choquée d'entendre dire que l'avocat général s'est lancé dans une tirade. Ça leur fait plaisir quand on ramasse des cadavres dans la Manche. Ça leur fait plaisir quand on ramasse des cadavres dans la Méditerranée. Ça leur fait plaisir quand on ramasse des cadavres dans les camions frigo. Comme si c'est nous qui le tuions. Mais quoi, ils vivent en sécurité et ils ont tout ce qu'il faut ici quand ils vivent sur les trottoirs, dans les caniveaux. Je suis hyper choquée de ça. C'est une hypocrisie totale et j'en ai marre.
Ouais. Autour de nous, autour de cette table, bien sûr, il se trouve d'autres amis qui sont avec nous. Si quelqu'un a insisté ce matin à l'audience de ce matin ou a insisté au rassemblement, qui veulent vraiment ajouter quelque chose, John, peut-être?
Je n'ai pas eu l'occasion d'assister à l'audience, malheureusement, mon dos ne me le permettait pas. Mais clairement, le gros problème, en tout cas ce qui me semble de ce que disait monsieur, c'est la présomption d'innocence. Il semble que la couleur suffise à vous mettre en couleur, en prison. Et ça, il y a un vrai problème là-dedans. Et c'est ce qui est sorti aussi des débats le matin au moment de rassemblement, où clairement, dans les personnes qui sont restées en prison, in fine, c'était ceux qui n'étaient pas du bon pigment de peau. Donc là, il y a franchement un problème par là. On dirait qu'il y a une présomption d'innocence en deux niveaux. Et enfin voilà, moi aussi, il y a une chose qui m'interpelle dans ce que vous venez de dire, c'est cela.
Merci John. Peut-être que ça sera vraiment pour la première partie, dernière question, bien sûr, pour vous. Comment vous voyez la continuation de ça, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, le rassemblement, les organisations qui sont autour de vous. On va parler, bien sûr, d'un livre qui était amené, pas mal de témoignages de ces migrants-là. Et comme citoyen, c'est quoi le message que vous voulez passer aujourd'hui, Myriam ?
Donc, il ne faut pas se laisser faire, évidemment. Il ne faut pas se laisser ni endormir, ni culpabiliser, ni effrayer, parce qu'on a raison. Enfin, ça me semble... Il y a une amie de ma fille qui m'a dit, la fois passée, elle a eu une éducation catholique, comme moi. Et elle me dit, c'est dingue, parce que, en fait, tu mets en pratique tout ce que j'ai appris dans mes cours de religion. Et je me suis dit, mais oui, mais moi aussi, tous ces cours que... Et finalement, c'était de la théorie. Et surtout, ne la mettez pas en pratique. On aurait dû me le dire. Je ne serais peut-être pas dans cette situation-là. Mais de nouveau, c'est cette immense hypocrisie aussi. Je ne vais pas parler des religions. Je vais parler de la religion catholique. Mais on ne les entend pas beaucoup. On ne les voit pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup d'églises s'ouvrir partout en Europe. On voit pas. Je me souviens que le pape, il y a quelques années, a fait un tirage au sort pour une famille syrienne qu'il a envoyée dans un monastère. Il avait sauvé des gens. Il ne faut pas rigoler, quoi.
James.
Actually, I want to talk about something else too. Thank you for every family in Belgium that they are helping the people to continue what they want. Like the story of Moada, it's always, you know, the something is made me crazy always and angry. Because those people, just they are trying to help people. Actually, I want every one of you that hear me right now in his home, if he's even in another country and he's sleeping outside, and someone ask him to the help. So how they will be happy? That what we are before. When we find family, they help us. Actually, we will feel that we are better, that someone is care about our case. So what they are doing, the family, that they're helping people in every way in Brussels or in every way in Belgium, thank you. You are doing good. And what you are doing is the best things that I find in my life ever. But your government, they did understand that you are doing what is good. So they are taking the bad decision about you. And thank you every way in Belgium. But what I want you from you always, the people that you are hearing me, and thank you too. But put yourself that you are helping someone. And the government, they are thinking that you are working with the trafficked human being. It will be something crazy.
Merci Shams, merci Myriam.
Merci.
Bien sûr, la politique migratoire aujourd'hui qui encadre tout ce qu'on est en train de... la condamnation, pas qu'en Belgique, il y a en Grèce, il n'y a même pas un mois, il y avait une condamnation de quelqu'un qui s'appelle aussi Hamza, c'est un Marocain, un an considéré comme un passeur, et c'est un migrant qui passe comme les autres. Merci à vous. Bien sûr, aujourd'hui, suite à cette thématique et à cette question, il y avait un rassemblement devant le palais de justice. On va écouter, bien sûr, Thomas, un des représentants de cet rassemblement.
Voilà, rebonjour à tous. On a eu quelques petits soucis techniques et on va reprendre ici avec Thomas. Donc Thomas, je te rappelle la question. Donc comment tu sens le procès ? Comment tu penses que ça va ? Comment tu penses que le procès va se terminer ? Plutôt positif ou plutôt négatif ?
En fait, un procès en appel, ça reprend vraiment à zéro. C'est-à-dire qu'on efface tout ce qui s'est dit en 2018. Et donc ça, c'est d'une certaine manière positif, c'est qu'on peut espérer que les prévenus soient mieux entendus, mais en même temps, on sait comment l'histoire risque de s'écrire, c'est-à-dire que les migrants, ils sont coupables a priori pour l'État, c'est pour ça qu'ils ont fait autant de préventives, et pour les hébergeurs et les hébergeurs, on peut espérer que les deux acquittements soient de nouveau donnée. Et pour les deux autres personnes, c'était une suspension du prononcé. Donc c'est pas tout à fait un acquittement, c'est pas tout à fait une condamnation. Donc là, on peut aussi espérer mieux. Donc on espère au minimum que les hébergeurs soient acquittés, mais aussi que les migrants soient acquittés et que cette culpabilisation, ce terrassement par l'État cesse. Mais malheureusement, on le voit aujourd'hui, l'actualité ne montre pas cette bienveillance, j'ai envie de dire, de l'État vis-à-vis des migrants. Le procès Moïda a tout à fait été révélateur, puisque là, le policier est condamné avec sursis, un an seulement avec sursis, alors qu'il a déjà tué quelqu'un. Et pour les migrants, c'est jusqu'à 4 ans de prison. Et donc, aujourd'hui, c'était important de se mobiliser. Moi, j'invite les gens qui nous écoutent, qui nous voient, à se dire, oui, à quoi ça sert, pourquoi je vais aller geler les pattes le matin à 8h. Ben, c'est cette mobilisation qui est utile. Les avocates de ce procès nous ont dit, sans cette visibilité, ces affaires, elles peuvent se dérouler de manière catastrophique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la pression d'autres militantes, on a parlé du procès, on a appelé le procès des pistes. Là, c'est un procès qui ne concerne que des migrants et qui sont plus du côté de la chambre néerlandophone. Donc là, ils sont complètement invisibilisés. Donc quand on est invisibilisé, l'État peut faire les pires choses qui existent. Et donc c'est important que nous, on soit là. Parce que la justice, c'est finalement une histoire d'hommes et de femmes qui prennent des décisions. C'est pas un logiciel informatique qui serait capable d'utiliser toutes les variables et tous les calculs et tous les algorithmes pour dire quelque chose de juste. Ce sont des personnes qui analysent des dossiers. Et donc ces personnes, elles sont subjectives. Il faut leur parler, il faut leur raconter des histoires. Et donc si elles voient dans la presse que des citoyens se posent des questions, ils vont être beaucoup plus attentifs au dossier. Donc moi, j'invite chacune et chacun à toujours, quand il y en a la possibilité, et évidemment on n'en a pas tous la possibilité, il y en a qui sont complètement dans la merde, donc on ne va pas leur demander d'encore aller aider d'autres à ce moment-là, mais si vous avez les capacités, si vous êtes en forme, si vous avez l'énergie, si vous rencontrez d'autres jeunes, d'autres personnes qui vous invitent à vous mobiliser, faites-le. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Le procès dure 2 jours. Et on espère que le prononcé, donc la décision finale, sera prise dans 3 semaines, 1 mois. Et j'invite vraiment les gens à nous suivre sur notre page Facebook, Solidarity. On a aussi fait une cagnotte sur crowdfunding.be, mais toutes les infos sont sur notre page Facebook. Parce que, en fait, il faut aussi savoir que ce genre de procès, ça coûte un pognon de dingue. Les hébergeurs qui ont des revenus payent jusqu'à 10 000 euros de frais d'avocat par personne. Les migrants sont ce qu'on appelle prodéo, c'est-à-dire que c'est l'État qui paye les frais des avocats, mais ils sont payés de manière assez ridicule. Et donc ça, c'est aussi un problème, c'est qu'alors du coup, les avocats négligent parfois un peu les dossiers parce qu'ils sont très peu rémunérés. Donc on a lancé une carrière, on souhaite mobiliser 15 000 euros pour les soutenir, on est à peu près à 5 000 euros là, ce matin, encore un mois pour atteindre cette somme. Donc on invite aussi les gens, s'ils le peuvent, à soutenir les intérêts de cette manière.
D'accord, merci Thomas. Donc, dernière chose, pour rappeler à ceux qui viennent d'arriver, dû à la coupure qu'on a eue, de quoi on parle et pourquoi on est ici. Pour rappeler très court, très très court.
Alors, ce matin, on était présent pour le procès de la solidarité, qui est un procès qui concerne 4 hébergeurs et hébergeuses de migrants et 7 migrants qui ont été mis ensemble dans le même paquet et ont été accusés de trafic d'êtres humains et d'organisations criminelles, et donc en fait d'avoir tiré un avantage, comme on dit, patrimonial, pour avoir aidé des migrants, que ce soit
oui, alors vous étiez à l'écoute bien sûr de Thomas, un des organisateurs de ce rassemblement de ce matin, Stop à criminaliser l'hébergeur et l'hébergeuse, et Stop à criminaliser bien sûr les migrants. On va passer à la deuxième partie avec Yann, et notre ami Yann et Hatim. Voilà, il y a un changement des places. Alors, bonsoir Hatim.
Bonsoir.
Tu apportes dans tes mains quelque chose, c'est quoi Tu peux nous parler un petit peu sur ce qui est dans tes mains?
Alors, il s'agit d'un livre, un recueil de témoignages de 7 des personnes inculpées pour trafic d'êtres humains dans ce procès. Donc voilà, ce sont des témoignages qui ont été recueillis dans la langue maternelle des personnes, donc en arabe pour certaines d'entre elles, qui ont été traduits et transcrits ensuite. Voilà, et qui, donc bon, enfin, que j'encourage vraiment tout le monde à lire et à diffuser le plus possible, parce que c'est pas la même chose d'entendre parler des faits et même de ce qu'ils peuvent avoir de scandaleux politiquement ou de lire les témoignages directement. Il y a vraiment un choc de voir le décalage entre ce que relatent les personnes et la version de la justice. Et voilà, donc, le livre s'appelle Welcome, ouais. Welcome, 7 personnes inculpées pour trafic d'êtres humains témoignent.
Tu vas nous faire écouter un passage, Hatim ?
Oui.
Ok.
Alors, c'est un extrait du récit de Mustapha. La partie de l'interrogatoire de la procureure. Puis il y a eu un autre interrogatoire avec une femme. Plus tard, on m'a dit que c'était la procureure. C'était très particulier. Elle me posait une question et quand je répondais, elle disait « tu mens ». À chaque fois que je répondais « non, tu mens, tais-toi, arrête de parler ». Des mots très violents. C'était une manière étrange de mener l'interrogatoire. Elle mentionnait des dates de mars à mai 2017, où j'étais à Paris. Elle m'accusait d'avoir été passeur ici durant cette période, d'avoir été payé pour faire monter des gens dans un camion frigorifique et qu'ils en sont morts à l'intérieur, que je le savais et que j'ai continué quand même à faire ça et que j'ai envoyé cet argent au pays. J'en revenais pas. J'avais beau lui dire que je n'étais pas à Bruxelles à ce moment-là, qu'elle devait confondre, je m'en souviens bien, en plus, je suis arrivé en juillet après le ramadan, mais elle me demandait de prouver que je n'avais rien fait, de prouver que j'étais à Paris à ce moment-là. Je ne pouvais rien prouver, évidemment, je travaillais au noir, je n'avais pas de papier. Je me mettais à crier que je n'y étais pour rien, cette histoire de gens qui étaient morts, je me suis mise à pleurer. Elle m'a dit, pas besoin de pleurer, ça ne changera rien à l'accusation. Pendant ce temps, mon avocat ne disait rien, il n'a pas prononcé un mot. Au bout d'un moment, elle a dit, tu as reçu de l'argent que tu as envoyé à ta famille. Je m'étais présenté comme Syrien à la première arrestation parce que le gars avec qui j'étais m'avait fait peur en me disant qu'il ne fallait surtout pas dire que j'étais égyptien. Je lui ai demandé si elle avait une preuve que j'avais envoyé cet argent. Elle a dit oui, mais où je l'aurais envoyé? Tu sais bien, tu l'as envoyé au pays. Quel pays? Fais pas semblant, tu l'as envoyé en Syrie. C'est là que j'ai compris que j'étais pris dans une affaire qui n'était pas la mienne et que j'allais payer pour quelque chose que je n'avais pas fait. Je lui ai expliqué que je n'avais jamais rien touché ici en Belgique, pas un centime, et encore moins envoyé d'argent. Je suis arrivé ici avec quelques centaines d'euros et j'ai tout perdu. Je n'ai jamais touché d'argent en Belgique. À la fin, elle m'a dit que j'étais un individu dangereux pour la société, qu'il fallait que je sois incarcéré à la prison de Dendermonde et que j'allais y passer 5 jours. Et là, je me suis tourné vers mon avocat et je lui ai dit « Mais je suis innocent, je n'ai rien fait. Dites quelque chose, je vais passer 5 jours en prison alors que je n'ai rien fait. Vous devez me défendre. » Il a dit « Désolé, je ne peux rien faire. Je ne peux rien dire. Je ne connais pas ton affaire, je n'ai pas lu ton dossier.
» C'est un passage, vous étiez à l'écoute d'un passage, bien sûr, de Mustapha, qui était... parmi les migrants qui sont accusés comme des trafiqueurs d'humains. Bien sûr, ce passage, il vient dans le cadre d'un livre qui s'appelle Welcome. Yann, avec nous, Yann, un des fondateurs de ce livre. L'idée d'avoir un livre, est-ce que l'idée, elle est venue vraiment d'un besoin ou comme ça vous aimez à écrire ou vous disiez hein, on va écrire un livre sur les migrants ou il y avait vraiment un acte qui vous a choqué et vous a avez fait vraiment d'être intégré dans ce que vous avez en train de faire.
Mais en fait, pour être précis, nous n'avons pas écrit le livre. Nous avons juste recueilli et retranscrit les témoignages. Je vais passer les détails de la démarche. En fait, elles sont exposées dans l'introduction du livre, qui est assez courte. Et dans les grandes lignes, c'était fin 2018. Donc, première instance du procès. Et nous avions rencontré certaines des personnes inculpées. Et nous avions accueilli Ala à la maison chez nous, qui n'avait pu sortir après 13 mois de prison, à condition de porter un bracelet électronique. Et voilà, pour plein de raisons qui sont précisées dans l'introduction, il nous a semblé important que les histoires que nous entendions, qui nous étaient partagées, soient entendues, lues, diffusées largement. Comme disait Adi, c'est vraiment très différent de faire la recollection de tout ce que nous savons sur les procédures policières et judiciaires, chose de les lire directement de personnes qui les ont vécues dans leur chair pendant des jours, des mois, voire des années pour certains. Et voilà, donc les recueillis entre le procès et le rendu du jugement, donc c'était début novembre et courant décembre. Et ensuite, le temps est passé pendant lequel nous avons retranscrit les récits, nous avons traduit ceux qui avaient été enregistrés. Et chercher aussi à pouvoir faire une traduction en néerlandais, parce que voilà, comme nous entendions dans le récit de Mustapha par rapport à Dendermonde, on se fait des dossiers, et c'est assez intéressant de voir comment les procédures et surtout les peines encourues sont en partie déterminées par les juridictions dans lesquelles les personnes se retrouvent coincées. Le livre est disponible gratuitement sur le site internet dont Adi va vous donner l'adresse.
Alors c'est marhaban.bruxelles.org. Et alors je vais épeler peut-être, donc marhaban ça veut dire welcome en arabe, enfin donc bienvenue. Et donc c'est marhaban.bruxelles, bruxel.org. Voilà.
Ouais, merci Adi, c'était pour la prononciation.
Ouais.
Et pour te répondre, ça nous est apparu comme une nécessité, on peut dire, à un moment de voilà, passer du temps, discuter longuement avec toutes ces personnes, d'avoir à un moment entendu Zakia aussi qui, à l'espace citoyen, avait raconté toute son histoire en présence de son avocat qui expliquait voilà, plus techniquement les enjeux de ce type de dossier. Et voilà, nous avons pris contact avec les éditions Antidote et ça nous a semblé une des manières de faire connaître ces récits, mais comme il y en a plein d'autres. Et j'attire l'attention aussi sur le fait que ce matin il y avait deux procès. Il y a beaucoup d'autres procès en cours dont on parle pas du tout. Ouais. Donc voilà, là, non seulement ce sont des témoignages d'un procès qui a déjà eu une certaine couverture médiatique et voilà, qui quelque part permet dès lors de comprendre un peu les mécanismes à l'œuvre, mais il faut savoir qu'il y a des dizaines de personnes qui se font condamner en silence dans le même type d'affaires, aussi pour trafic d'êtres humains, avec des dossiers entièrement à charge. Et si vous lisez même une partie de ces récits, vous verrez le degré d'absurdité et d'incohérence dans les dossiers. Et tout le monde s'accorde aussi à dire qu'il y a un défaut de défense, dans le sens où il y a certaines avocates qui sont remarquables, qui font un boulot minutieux, qui suivent ça de très près, et pour d'autres personnes qui n'ont pas les moyens ou pas la chance de tomber sur les bonnes personnes, qui se retrouvent pas défendues du tout, ou le jour même, comme aujourd'hui, par des stagiaires qui ne connaissent absolument rien au dossier, et voilà, et qui prennent des parfois jusqu'à 10 ans de prison simplement aussi sur des erreurs de traduction. Enfin, c'est, voilà, vous pourrez lire certaines de ces histoires dans le livre. Il y en a plein d'autres comme ça.
Et on peut trouver le livre où exactement, sauf à part le site, le lien du site web, mais on peut le trouver comme ça.
Ben, sur le site, les lieux où il se trouve sont renseignés au fur et à mesure, déjà quelques-uns. Et donc là où c'est disponible pour le moment, ben, il y en a à Tropisme, et on a ici au Steki, il y en a à la Vieille Chéchette, librairie Parchemin. Il y a aussi de plus en plus de lieux en France. Il peut être commandé en ligne. Vous trouverez l'adresse sur le site aussi en écrivant au Steki. Et voilà, donc nous cherchons des lieux qui sont prêts à accueillir le livre. Alors, je voudrais
avec un prix libre pour que les gens sachent ça.
Mais je vais préciser quand même. Ouais. Là, il est en vente à 10 euros.
Ça va.
Les bénéfices, en fait, sont destinés, s'il y en a, à être versé pour un financement participatif qui a déjà lieu mais qui sera lancé officiellement bientôt. Et l'idée de ce financement participatif, c'est de récolter de l'argent pour réimprimer des livres en espérant que la traduction en néerlandais soit prête pour pouvoir le faire, en tout cas déjà en néerlandais et en français. Nous cherchons maintenant à le traduire aussi en arabe et en anglais. Et pour réimprimer donc des livres qui seraient déjà payés et pour que ça nous permette de les diffuser et de les envoyer gratuitement à des endroits où a priori ils n'iraient pas, où a priori les personnes ne feraient pas la démarche de les acheter. Et donc nous avons déjà quelques idées de lieux où il serait intéressant de les diffuser. Et voilà, donc nous tiendrons au courant quand le financement sera lancé officiellement, mais il est déjà possible de le soutenir dès maintenant. Voilà, tous les détails sont sur le site.
Ça va. On va retourner vraiment avec Hatim avant l'émission en parlant, parce que toi, bien sûr, tu as insisté à l'audience aujourd'hui et ça te fait vraiment choquer ou attirer le mot, un mot qui se trouve dans les téléphones ou dans les communications des amis beaucoup, c'est le travail, le travail, le travail, et le khadma en arabe, comme on dit. Et tu m'as parlé sur ça, vraiment, je voulais bien que tu nous expliques et tu expliques à les gens qui nous écoutent. C'est ça.
Oui, alors ça c'est un point vraiment important que Yann avait abordé là juste avant sur le degré d'absurdité, mais vraiment il faut le dire aussi, d'irrégularité, de mensonge et de manque total de scrupules dès qu'il s'agit de personnes de ce type, migrantes, etc., qui sont jugées. C'est là qu'il y a un endroit où on voit vraiment à quel point dans ce genre de montage à la fois politique, policier, judiciaire, les gens qui participent à cela à différents degrés n'ont absolument aucun scrupule. C'est au niveau de la langue, en fait, au niveau de la langue et des termes de traduction. Et ça, en fait, donc l'exemple que tu relèves, c'est un exemple parmi d'autres, mais évidemment, dans les faits qui sont reprochés, il y a beaucoup de choses en fait qui reposent simplement, ou en tout cas en grande partie, en tout cas, il n'y a même pas de simulacre de preuve autre que des échanges téléphoniques. Lorsque la police avait mis les personnes sur écoute, etc. Et là, en fait, à ce niveau-là ou au niveau des interrogatoires, il y a vraiment un point de vue exclusivement à charge qui a été adopté, par exemple, avec l'usage de ce mot « khedma » en arabe. C'est un exemple parmi d'autres. Hein. Mais « khedma » en arabe, quelqu'un dit à un autre « ok, où est-ce que ça en est de cette khedma ? Est-ce que tu peux faire… » Bon, « khedma » en arabe, et ça, je veux dire, dans tous les dialectes arabes différents, même là, pour le coup, même non-égyptien, moi, je suis tunisien d'origine, et dans différents pays arabes, le mot « khedma », ça peut vouloir dire travail, mais ça peut tout autant vouloir dire service, course, une affaire quelconque, quoi. Un truc à régler, quel qu'il soit, quelque chose à faire, quoi. Voilà. Et là, par exemple, lors de l'audience aujourd'hui, le juge, le procureur, etc., revenaient en permanence sur ce... Bon, alors, il y a un travail. Donc, qui dit travail dit rémunération, etc., etc. Enfin, il y avait vraiment une insistance très forte là-dessus. Et ça pose vraiment une question. C'est-à-dire que là, pour le coup, j'avoue, même moi, qui, du coup, ai participé à l'élaboration de ces récits, donc qui les a lus, relus, etc., j'étais une nouvelle fois surpris de à quel point ils ne prennent même pas la peine de, enfin voilà, d'avoir un minimum de rigueur même dans leur version à eux, quoi. C'est-à-dire même de faire ce travail, de s'assurer que en fait ce sur quoi ils s'appuient, il y aurait vraiment une matière en s'assurant de est-ce que cette traduction est fiable, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ça, je crois qu'en fait, enfin voilà, un des intérêts peut-être qu'il peut y avoir, enfin pas peut-être, je pense certainement, mais qu'il faudrait une diffusion beaucoup plus massive à mon avis. Un des intérêts qu'il pourrait y avoir pour ces récits, c'est que des gens assez divers en Belgique et même dans d'autres pays, en France, puissent prendre conscience du degré d'irrégularité, de mensonge, de déformation à laquelle la justice d'un pays démocratique ou état de droit peut en arriver dès qu'il s'agit d'une certaine catégorie de personnes.
Voilà. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, vraiment, on a le temps qui nous presse un peu. On a l'agenda militant. Yann, vraiment, dernier appel ou un appel, puisque ce matin, dans le rassemblement, il y avait vraiment le collectif, voilà, votre collectif, a eu une intervention qui a amené vraiment des messages d'essayons vraiment de rassembler les énergies sur cette thématique, de travailler ensemble. Vraiment, c'est des messages comme des appels à tout le monde qui était là. Voilà, Yann, est-ce que c'est ça votre... L'idée, c'est de vraiment continuer à travailler sur ces thématiques, surtout la thématique de la criminalisation aujourd'hui, parce qu'elle est forte, elle est devant nous. Est-ce que vraiment, vous voyez que, par exemple, on peut y aller à créer une autre plateforme, une plateforme qui peut être un rapport de force sur cette question, puisque voilà, on est devant une réalité qu'il faut vraiment réfléchir à. Je ne sais pas comment vraiment vous voyez les choses à ce niveau-là.
Une fois de plus, tu me prends de court, Saïd. J'en sais rien. Le terme qui me vient à l'esprit, c'est démuni. En fait, c'est tellement gros. Oui, bien sûr, c'est une piste, une voie. Je pense que nous sommes nombreuses à envisager, à espérer ce type d'engouement, un moment de détermination, de rassemblement. Moi, je constate que ça fonctionne bien, la peur, que ça fonctionne bien, les menaces, ce type de procès politique où, comme dirait le procureur, il s'agit de tracer une ligne rouge, de vraiment... commencer à produire l'inquiétude, le doute, la peur, même chez des personnes voilà, qui ont hébergé, qui ont accueilli, qui ont aidé. Et c'est pas des doutes quant à leur légitimité, c'est vraiment des doutes quant à ce sur quoi il est possible de s'appuyer quand on subit des procédures judiciaires comme celle-ci, en termes de faits, en termes de légitimité. Et ce que la camarade disait ce matin, c'est que pour beaucoup de personnes qui ont hébergé, il y a ces affaires qui durent, qui emprisonnent des personnes avec lesquelles elles vivent au quotidien. C'est un réel traumatisme et que c'est difficile parfois de leur proposer de coopérer sur la riposte politique vis-à-vis de ces opérations-là. Et pourtant, c'est des personnes qui ont beaucoup de ressources, qui connaissent bien les dossiers, qui ont suivi le parcours, qui savent où les personnes inculpées en sont, leurs histoires. Et donc, c'est vraiment des ressources importantes pour pouvoir élaborer ces contre-enquêtes pour pouvoir mettre en pièce les dossiers avec des faits, des arguments solides. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que des plateformes, des tentatives comme ça, y en a qui font un énorme boulot. Donc oui, nous avons essayé quelque chose en rassemblant ce livre, en essayant de le diffuser un maximum. Et je pense que là, le process, les audiences de ce matin et de demain, c'est vraiment des moments difficiles où nous sommes renvoyés à notre impuissance. Et face à ça, toutes nos tentatives semblent tellement vaines. Mais je crois qu'il va falloir un petit temps aussi pour que nous puissions nous en remettre. Pour voir quelles seront les suites, quels seront les verdicts. Et je pense qu'il y a un enjeu crucial, vraiment crucial à cet endroit-là, et qui se limite pas à cette question-là, sur les politiques migratoires, que ce soit à l'échelle de la Belgique, l'Union européenne aussi, parce que c'est fortement lié, même si le cas belge est vraiment, vraiment très singulier et intéressant. Je pense que ça vaut la peine d'aller creuser. Je crois que je suis démuni comme beaucoup de personnes ce soir.
Merci Yann, merci Hatim. Bien sûr, le livre de Willkom est disponible dans les locaux, comme on a entendu, à Ostecki, au Vieille Chéchette et d'autres locaux, bien sûr. Et sur le site, c'est sur le marhaba.bruxelles.org. Ça se trouve vraiment le livre gratuit. Bien sûr, si on achète un livre, c'est qu'on continue vraiment à contribuer dans les initiatives qui existent. Ces initiatives-là, vraiment, ça aide des migrants, ça aide pas mal de choses. Merci à vous, merci les amis. On passe à la dernière chanson. On va écouter ensemble. Peut-être ouvrir les frontières.
وانا سندي بادي باد عمري ماشي ماشي رن اللي باجي غاد مش بتحجر صبح زي مسائي وسط زي حكايتي مستعجل بس بضطر شفتك وانت جاي هادي مش هوايتي شاف مصدر منه استرزا ننساش اللي يتعدانا للدار الكل تتخزى كن صاحب صاحبك صاحب المبدأ ليوم يلزم ما بيتردد ليه ما بتندم يوم يبزعلك ليلة وتوقع دايما جنبك تتهبل ننساش العشرة وما بنخسرها نعجبك بالفزعة واوا وياي لنطقن وجع وانا مالي ومال الناس بلعك قرش مش كساس مش ان يوم شفت وضق عليك تزعل زي في ملان بلدنا مبنكة في ملان وان شاء الله الجمعة في كمان وكل مين شاف شاب جديد عالمسرح بيستغرب وينا من زمان وك وينك من زمان شفت بعينك الامان شوف بطمن لك حصتك بس شرطك كنت احكينا انا جاك اذا عجبك شرط ما ولا جاك خلصنا تفضلوا على العشاء نطلع استج مش عالمسرح وقت ضد الضوء هتحك كلام برد من الجو فانا ناقص مني جوا كلكم بتلعبوا فيها عداء انا بلعبها قوة هي هرم من الوزن يا زين يوم اتمارس كن متزن يوم بزعل بتزعزع من جوا ليش لاني انا فارغ من الجو فانا ناقص مني جوا كلكم بتلعبوا فيها عداء انا بلعبها قوة هي هرم من الوزن يا زين يوم اتمارس كن متزن بزعل لو بتزعلني ويوم بزعل بتزعزع من جوا ضلني ساكت طول الوقت انا تتحسر حظك حظ كلاب حذر فذر سد الباب سند بادة سند باد سند راحت سند جاب وانا سند بادي بادي شغلي ماشي ماشي شرطي شافني ماشي رحت اتفتى شي مساج بضغط شرطي شكله بطش انت بيعرفوني وقت اتنرفز يلا الحقوني رحت اتمركز لما يمسكوني نام بالمركز غد بتدلل البطر هد برتاح نام بسكوني بفيك وانا بجهز نيكوز انا كرز لانه مصيره انيكوز انا كرز مش منطق تتملك وانت بتسرح بمنطق ديه نسيب اذا بتزل لما تجيني بجيك ولا بسأل عندي يقين في مصدر رزق جبيني ودايما بعرق دايما بتنزل ضلني ساكت طول الوقت انا تتحسر حظك حظ كلاب حذر فذر سد الباب سند بادة سند باد سند راحت سند جاب وانا سند بادي باد عمري ماشي ماشي رن اللي باجي غاد مش بتحجر صبح زي مسائي وسط زي حكايتي مستعجل بس بضطر شفتك وانت جاي هادي مش هوايتي شاف مصدر منه استرزا ننساش اللي يتعدانا للدار الكل تتخزى كن صاحب صاحبك صاحب المبدأ ليوم يلزم ما بيتردد ليه ما بتندم يوم يلزم
on était à l'écoute de cette chanson, belle chanson, qu'on vraiment. On va terminer bien sûr avec notre agenda, agenda militante. Chaque jeudi, bien sûr, au Steki, il y a le colis alimentaire de midi à 15h. Et aussi au niveau de DECA, chaque mercredi avec le brigade de midi à 15h, il y a la distribution colis alimentaire. Le jeudi au Théâtre National, il y aura une discussion de comment on organise la solidarité. C'est des jeunes étudiants, bien sûr, avec les artistes et les sans-papiers, sur une discussion le jeudi de 13 à 15. Le vendredi prochain, le rassemblement des sans-papiers à 14h. Et le 2 avril, la chaîne humaine de l'église Béguinage jusqu'à l'office des étrangers. Demain, bien sûr, il y a la suite toujours de les audiences de cette affaire qu'on a discuté à 9h du matin. Un grand merci, les amis. On va vous dire au revoir.